Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Éducation, santé, environnement. Ça fait 10 ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de La Story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent.
Londres, capitale de la culture pop et de la mode. Voilà qui fleure bon les années 60, les Beatles, la mini-jupe et les univers de chapeaux melons et bottes de cuir et d'Austin Powers entre Soho et Carnaby Street.
Austin Powers always defeats me because he has mojo.
Mojo?
Mojo.
Mais que reste-t-il du Swinging London ? Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et je vous invite à traverser la Manche avec moi pour découvrir le Swinging London d'aujourd'hui entre Brexit et gentrification.
Un bon conseil, conservez toujours votre chapeau melon sur la tête en période de danger.
Je n'oublierai pas.
Au revoir, Steve.
Emma, merci.
Emma Peel, ses tenues élégantes, ses bottes de cuir et un style inimitable pour les amateurs de la série si représentative de l'Angleterre des 60s. Ce serait donc ça, le Swinging London. Pour le comprendre, il faudrait l'avoir vécu sans doute, surtout si l'on vient de ce côté de la Manche. Trop tard ? Pas sûr, car le Swinging London n'a pas disparu, bien au contraire. Il a traversé les époques et continue de surprendre par ses artistes et son foisonnement culturel. C'est ce qu'explique Cécilia Delporte dans un article qu'elle consacre à ce mouvement dans un numéro spécial Londres des Echo Weekend, un numéro à ne pas rater vendredi en kiosque. Bonjour Cécilia Delporte.
Bonjour.
Alors d'abord, historiquement, c'est quoi le Swinging London ?
Oui, alors petite piqûre de rappel, le Swinging London, donc c'est un moment, une période d'effervescence culturelle qui s'est déroulée au milieu des années 1960. Et sa particularité, c'est que ça a touché un peu tous les secteurs, tous les domaines, donc que ça soit la photographie, la mode, la musique, la littérature, le cinéma, tous ces domaines-là, en fait, ont été impacté un peu par cette effervescence culturelle qui concernait quand même beaucoup l'élite londonienne.
Oui, c'était pas seulement de la musique ou l'art, hein, c'était aussi le monde de la mode, des mannequins vedettes, c'est ça?
Oui, bah, tout à fait. C'était l'époque de Marie Quant, on se souvient, hein, celle qui a popularisé les mini-jupes, hein, pour le côté mode. Et puis, c'était les photographies de David Bailey, de l'icône pop Twiggy également.
Véritable figure des Swinging 60s, c'est elle qui a popularisé la mini-jupe. Marie Quant est à l'honneur en ce moment au Victoria and Albert Museum de Londres qui consacre une exposition à la styliste galloise.
Et puis c'était aussi le monde de la nuit, hein, avec le quartier par exemple de Soho qui était en pleine effervescence avec les boîtes de nuit et les endroits un peu branchés où sortir. C'était vraiment voilà, toute la branchitude un peu londonienne.
Pourquoi est-ce que ce Londres de la nuit fait-il encore fantasmer notamment les franchises ?
Ça fait fantasmer parce que Londres a ce côté un peu décadent dans l'imaginaire collectif en tout cas. Et puis c'est une ville qui est très multiculturelle où il y a plein d'influences différentes. Et du coup, bah, d'un lieu à un autre, on se retrouve vraiment immergé dans des atmosphères différentes et puis, assez décalé par rapport à ce qu'on peut trouver à Paris.
Where to spend that evening out? London's nightlife offers a choice as wide, a variety as rich as London's daytime shops.
On comparait justement beaucoup Londres et Paris. Paris qui apparaissait presque ennuyeuse, un peu grise, notamment la nuit. C'est pas une idée un peu fausse quand même ?
Oui, tout à fait. C'est parce qu'on aime bien aussi se comparer avec ce qui se fait à l'extérieur. Et puis voilà, Paris, c'est Paris la nuit. Enfin, je veux dire, il y a quand même tout un imaginaire aussi autour des nuits parisiennes. Mais c'est juste que c'est une ambiance différente. Comme je l'ai dit, à Londres, c'est peut-être parfois un peu plus de fantaisie. Puis oui, c'est une ville qui est beaucoup plus diversifiée, hein, donc beaucoup plus multiculturelle. Et voilà, c'est ce qui fait toute sa force, toute sa richesse.
Oui, je vous confirme, à Paris, quand on a vécu et grandi en province comme moi, en Bretagne, je peux vous dire que ça faisait aussi fantasmer. Quelles sont aujourd'hui justement les sources d'inspiration de ces mouvements musicaux et artistiques de ce nouveau Swinging London ?
Alors, par exemple, si on prend l'exemple de la musique, on trouve par exemple le grime. Le grime, en fait, qui est un mouvement qui est né un peu dans l'est de Londres. Et c'est une musique urbaine, mais qui trouve plein d'influences différentes. Des influences rave, dans le garage aussi, dans les influences aussi hip-hop. Voilà, c'est une musique en fait qui mêle plein d'influences différentes et qui est née en fait, qui a émergé grâce aux radios pirates britanniques. Et puis aujourd'hui, c'est une musique qui inspire les États-Unis. Hein. Les rappeurs comme Drake, comme Kanye West s'en inspirent. Et puis, par exemple, les héritiers un peu les stars montantes de ce mouvement-là, c'est Stormzy qui a fait le festival de Glastonbury il y a pas si longtemps.
Stormzy, un temps fort du festival de Glastonbury dans cette vidéo de BBC Music. Donc c'est un milieu très mouvant, très grouillant, j'ai presque envie de dire, ça bouge de tous les côtés. Et dans votre article, vous donnez aussi un exemple, celui d'un groupe de jazz. C'est un collectif, Steam Down. On va écouter quelques notes. Take your time, young one, I know the road is a long and kind of troublesome, the ground by this. Cécilia, hein, vous racontez cette ambiance de fans qui se déhanche au rythme des notes dans ce quartier de Londres, sous les arches d'une voie ferrée. On a l'impression quand même d'une culture très élitiste.
C'est une culture, non, qui l'est moins que le Swing in London des années 60. Hein. Aujourd'hui, justement, si on prend l'exemple de Steam Down, donc ce collectif de jazz, c'est un peu comme le grime, hein, ça mêle plein d'influences différentes. Voilà, hein, par exemple, là, dans ce cas-là, ça mêle des influences qui sont très jamaïcaines, ça emprunte aussi à la dance, ça emprunte parfois aussi un peu au grime, hein, justement. C'est vraiment très riche et du coup c'est susceptible de plaire à tout le monde, c'est pas du tout élitiste. Et puis quand on assiste justement au concert de Steam Down, tout le monde danse, c'est un public très jeune mais qui viennent pas forcément des quartiers avoisinants, enfin je veux dire c'est tout Londres qui s'y retrouve et c'est pas si élitiste que ça. Après c'est un peu branché, on va dire.
C'est pas forcément un loisir de masse, effectivement. Peut-être que le terme d'élitiste est dépassé. Métissé serait plus proche de la réalité.
Oui, assez multiculturel, comme je le disais. C'est vraiment pour moi, en fait, ce qui incarne la culture londonienne, si on devait la définir à ce moment-là, à cet instant présent. En fait, c'est une culture qui est vibrante et très multiculturelle. C'est ce qui la définit le mieux.
Est-ce que c'est une culture qui se cache aussi ?
Dans quel sens ?
On voit bien, ça se mérite, finalement, de les trouver. Est-ce qu'on les trouve facilement ?
C'est vrai. Alors, comme je disais, il y a ce côté un peu branché, donc évidemment, faut un peu dénicher les derniers coins à la mode. Et puis surtout qu'en fait, Londres a complètement changé dans sa manière de vivre la culture. Vu que Londres s'est embourgeoisé, tout s'excentre un peu, hein, tout se déplace vers des quartiers qui autrefois n'étaient pas forcément très populaires. Et du coup, les jeunes londoniens doivent un peu explorer d'autres quartiers, on va dire, pour trouver un peu le dernier lieu à la mode ou le dernier groupe à écouter.
Justement, Cécilia, quels sont les nouveaux quartiers à la mode ?
Alors aujourd'hui, si on veut vraiment vivre la vie culturelle londonienne, vraiment la sentir, il faut aller dans le sud de Londres. Par exemple, Steam Down s'est implanté à Deptford. Mais il y a aussi les quartiers de Shoreditch, d'Hackney. Tout ça, c'est des quartiers qui sont très vivants et qui sont finalement pas si loin du centre de Londres, mais qui autrefois n'étaient pas si populaires et parfois un peu, ça avait réputation d'être un peu dangereux, ce qui n'est plus du tout le cas maintenant.
C'est un renouveau qui passe aussi par les salles de spectacle, que ce soit pour le théâtre ou la danse ?
Alors, Londres n'est pas forcément, on va dire, réputée pour être très pointue concernant les spectacles. Ce qu'on trouve vraiment, en fait, c'est les comédies musicales dans le West End de Londres. Et alors là, bon, pareil, ce n'est pas très nouveau, parce que souvent, ça va être des spectacles venus de Broadway ou bien des spectacles londoniens créés à Londres, mais qui jouent, en fait, depuis des années en boucle, hein, qui remplissent les salles, mais c'est voilà, il y a rien de très nouveau. Et puis côté théâtre et danse, bah, c'est beaucoup moins pointu qu'à, par exemple, à Paris ou à Berlin, même s'il y a des grandes institutions, hein, des grands centres culturels, mais faut pas aller chercher de ce côté-là.
Tout se passe plus dans la rue, finalement, et dans des petits endroits un peu plus confinés.
Oui, tout à fait, c'est ça. Après, il faut avoir justement la curiosité de sortir un peu des sentiers battus.
Alors, votre article est publié dans Les Échos Week-end, qui consacre cette semaine son numéro à Londres. L'actualité, c'est aussi le Brexit. Est-ce que lors de votre reportage, vous avez senti un intérêt ou une angoisse liée au Brexit ?
Tout à fait. Alors, c'est quelque chose qui revient à chaque interview. Chaque intervenant en parle, hein, qu'on pose la question ou pas. C'est quelque chose de palpable, enfin, un sentiment forcément qui anime tout le monde. Ce qui ressort, c'est pas tellement une peur du Brexit, c'est plus une lassitude et puis un peu un dégoût de la classe politique britannique, en fait. Hein. C'est ce qui ressort, mais je pourrais pas vraiment dire peur parce que c'est plus, en fait, ils ont envie d'en finir, enfin, que ça se passe et de passer à autre chose, de voir ce qui va arriver.
Parce que ce qui est surprenant, c'est que vous évoquez dans le même temps une jeunesse moins politisés, c'est vrai qu'on n'est plus dans les années 60.
Alors en fait, ils sont politisés, mais ils ne l'expriment pas forcément à travers leurs œuvres. Aujourd'hui, ça va être, par exemple, si je prends l'exemple de la littérature londonienne, ça va être une écriture qui va plus traiter de sujets personnels, avec des thématiques notamment très féministes, sur la notion de genre, sur la notion d'identité, et puis aussi des thématiques sur la précarité, également la violence sociale, mais ça ne va pas être des textes très politisés ou comme des manifestes, en fait. Ça va être écrit, en tout cas, à travers un prisme très personnel.
Le Londres de la nuit, ce Londres de la fête, il est aussi menacé. Pourquoi ?
Parce que Londres, en fait, c'est embourgeoisé. Il y a eu ce phénomène, justement, de gentrification. Et il y a des chiffres qui sont assez édifiants, assez parlants. En fait, Londres a perdu presque la moitié de ses discothèques et un tiers de ses salles de concert historiques depuis 2007. Donc, c'est quand même assez édifiant. Et donc, voilà, ça, c'est lié, en fait, aux fermetures de boîtes de nuit qui sont liées aux nuisances sonores, en fait, hein, parce que les habitants qui sont plus aisés, ils ont moins envie d'être enquiquinés par la musique de la discothèque d'à côté.
Alors, il y a un personnage incroyable dont vous parlez dans cet article, c'est Amy Lamey.
Alors, en fait, c'est la Night Tsar. Donc, c'est la personne, en fait, qui a été nommée par la mairie de Londres. C'est une première, elle a été nommée il y a 3 ans pour, en fait, redonner vie à la nuit londonienne. Donc, ça montre bien que la nuit londonienne était un peu à bout de souffle, si je peux dire. Et donc, cette personne, c'est une figure en fait très charismatique qui est bien connue des Londoniens. C'est à la fois une animatrice musicale, c'était une militante des droits LGBT. Et en fait, elle a fondé aussi des soirées queer et drag queen à Londres. Et voilà, c'est une personne qui est en charge de justement redonner vie à la vie londonienne en parlant avec les habitants, en parlant avec les promoteurs de boîtes de nuit, en essayant de trouver des accords. Et puis aussi un peu en misant sur certains quartiers de Londres et en essayant que, par exemple, les magasins ferment plus tard, que les boîtes de nuit ferment plus tard. Voilà, essayer de trouver des accords pour permettre d'apporter un peu plus de dynamisme à Londres.
My name's Amy Lamey and I'm supporting Sadiq Khan to be Labour's candidate for the Mayor of London. We need a candidate who's fresh and full of energy and who really captures the youthful, vibrant spirit of London.
Et ça, justement, c'est donc quelqu'un qui a été missionné par la ville, autrement dit par l'administration. Ça veut dire que finalement, Londres et cette image de Swinging London, ça ne fait qu'un aussi pour les dirigeants de la ville ?
Tout à fait. En fait, il y a cette idée d'être un peu l'équivalent de New York, enfin, qui revient beaucoup, justement, c'est ce dont parle Amy Lamey, d'être voilà, une ville vraiment qui vit la nuit, avec des métros qui fonctionnent la nuit. On voit que Paris s'en inspire, mais bon, nous, on n'a pas encore notre Night Tsar. Mais en tout cas, elle, c'est une personnalité, c'est vrai, assez haut en couleur. Et c'est une vraie volonté de Londres hein, et de la mairie de Londres qui a senti, justement, hein, qui perdait de la vitesse pour la nuit londonienne. Hein, c'est quand même une économie importante hein, pour Londres.
En 2016, Sadiq Khan, le maire de Londres, s'était plaint de l'exode des Londoniens jeunes et créatifs partis à Amsterdam, Berlin ou Prague, où les clubs sont soutenus et autorisés à se développer. Et il avait lancé un plan pour relancer la vie nocturne, en prenant modèle notamment sur le Conseil de la nuit mis en place à Paris en 2014. En 2015, les revenus de l'industrie des boîtes de nuit représentaient encore plus de 2,3 milliards d'euros. 4 ans plus tôt, il pesait un tiers de plus. Vous avez beaucoup dormi durant votre reportage à Londres ?
Pas beaucoup. Pas beaucoup, mais bon, il faut tester.
Alors, le cool britannique est donc bien vivant, c'est cool. Une dernière chose, Cécilia, vous avez une adresse, un lieu marquant à conseiller à Michel Varnet qui part bientôt à Londres ?
Alors, je conseille tous les mercredis donc, d'aller voir le collectif de jazz, donc Steam Down. Je parlais. Et puis, alors, si on veut prolonger la nuit après ça, je conseille la boîte de nuit Printworks. Qui est en fait installé dans une ancienne imprimerie et c'est vraiment monumental et là voilà, ça peut continuer toute la nuit, on peut vraiment profiter des joies de la vie londonienne et de la nuit londonienne surtout. So take me back to London. Yo.
Take Me Back to London chante Stormzy et Ed Sheeran, la rencontre du grime et de la folk pop, symbole de ce nouveau Londres, la ville qui swing. Pas étonnant entre ces 20 millions de touristes, ces 110 000 étudiants, ces 83 000 restaurants, ces 1733 nightclubs et ces 69 litres de bière ingurgités chaque année en moyenne par chaque londonien. Merci Cécilia Delporte, journaliste aux Echos Weekend, pour cette belle balade londonienne. La story, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par DJ Nico Jean, featuring Michel Varnet. Si vous avez aimé cet épisode et si vous appréciez la story, n'hésitez pas à la partager autour de vous et à nous donner 5 étoiles sur les plateformes de podcast et de streaming. Ne manquez pas non plus dans les kiosques les Echos Weekend de tous les vendredis et notamment ce spécial Londres. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.